retour sur la chaîne Basket Session Reverse. Vous connaissez le rendez-vous. On va débriefer ensemble les matchs de la nuit. Shai, seulement 5 matchs au programme, mais il y avait des matchs en jeu, notamment celui entre les Warriors et les Rockets. Alors, l'enjeu était un peu moins important parce que Houston restait sur 2 défaites de suite avant ce match et Golden State, à l'inverse, était en train d'enchaîner des victoires. Mais les Warriors ont quasiment validé leur 10e place. Ce n'est pas mathématiquement fait, mais il y a 4 victoires d'écart, il reste 6 matchs à jouer. Les Warriors ont battu les Rockets 133 à 110. Les Splash Brothers ont inscrit 29 points chacun. Et du coup, voilà, Golden State passera au moins par le play-in si jamais Golden State doit aller en play-off.
Voilà, sauf cataclysme, puisque la 4 victoires d'avance, a priori, ils sont même plus proches de remonter quelques rangs, voilà, quelques places que de sortir du play-in. Donc déjà, la catastrophe industrielle est évitée, parce que clairement, si tu fais pas les play-offs cette année, enfin le play-in, quand tu joues Warriors cette année, c'est une catastrophe. Et là, on peut envisager reconstruction et fin de cycle et tout ça. Là, ils prolongent un peu l'espérance de vie, on va dire, de la dynastie. Mais ouais, bon, c'est plié. Houston a quand même, c'est quand même bien battu ces dernières semaines. Il faut le mettre à leur crédit, mais là, ils avaient plus assez de d'énergie, et puis c'était tellement plus important pour les Warriors qu'au final ils l'ont emporté. Et les Splash Brothers, comme tu le disais, ont mis 29 points chacun. Ils ont rapidement construit leur avance, 15 points à la mi-temps, et derrière ils ont été en gestion. Et les Rockets, du côté des Rockets, les individualités ont moins été au rendez-vous que ces dernières semaines. Ça commence à tirer un peu la langue aussi. Du côté de Jalen Green et compagnie, il y a finalement que Jabari Smith qui a été à la hauteur, on va dire, 24 points, et les Warriors sont assez facilement imposés finalement.
Ouais, Ime Udoka, il a dit que son équipe n'était pas prête encore mentalement pour ce genre de truc. Ils n'ont pas su répondre aux défis. Pour Golden State, on a quand même une équipe qui, là aussi, comme d'autres, est en train de monter en puissance au meilleur moment. 6 victoires de suite, sans Kuminga. Kuminga qui devrait revenir d'ailleurs, mais il y a une rotation qui s'installe. Trace Jackson Davis est très bon, il a signé son record en carrière, d'ailleurs 20 points. Wiggins a montré du mieux, là il ne met que 10 points, mais dans l'ensemble il a montré du mieux. Là où je veux en venir, c'est que je continue de penser que ces Warriors ne sont pas tout à fait une équipe qui est censée être 10e. Je ne me souviens plus quel est leur bilan sans Draymond, je ne sais pas si tu te souviens de ça, notamment pendant la suspension, mais j'en parlais hier avec mon frère et avec un ami à moi. De se dire, en fait, cette équipe avec Draymond toute la saison, est-ce qu'elle n'aurait pas été nettement mieux classée?
Je pense, bien sûr. Il y a eu des matchs où tu dis, bon, ça va, ils se sont serrés les coudes et ça a été, mais globalement, c'est inconscient de dire, il y a des équipes où on me dit, ah ouais, bah, sans ce joueur-là, finalement, ça va, ils s'en sortent. Mais dans un contexte de play-off, tu peux pas, sans Draymond, on voit bien la différence. Le Draymond qui pète pas un câble en plein milieu du match, hein, évidemment, on parle du Draymond général de défense, playmaker, tout ça. Donc ouais, évidemment, et je pense que tu as totalement raison, les Warriors, sans les différentes suspensions de Draymond, je pense qu'ils ne sont pas à cette place-là. Je pense qu'ils valent, dans tous les cas, on est d'accord pour dire qu'ils valent mieux qu'une 10e place à l'Ouest, avec l'effectif, l'expérience qu'ils ont, ça vaut mieux que ça. C'est pour ça qu'ils sont dangereux et que personne n'a envie de les jouer au play-in, et peut-être même pas dans une série de play-offs.
Allez, on peut enchaîner vu qu'on parle de play-in, on peut rester sur un peu dans le thème. Il y avait un autre match, mais cette fois-ci de l'autre côté du pays, à l'Est, un choc entre Philadelphie et Miami. C'est potentiellement un avant-goût d'une affiche de play-in, parce qu'aujourd'hui, Miami est 7e et Philadelphie 8e. Victoire des Sixers 109-105. Alors, c'était un match un peu fou. Il y a eu des runs dans tous les sens.
N'importe quoi.
Ça a commencé par Philly, Miami a répondu, Philly a remis un run, Miami a re-répondu, est repassé devant, puis finalement, au final, il a fini sur un run, et donc victoire des Sixers. C'est pas Joel Embiid qui a été le joueur le plus en vue, c'est plutôt Tyrese Maxey. 37 points, 9 rebonds, 11 passes, super match de Maxey. Embiid, il a mis 29 points aussi, mais à 11 sur 25, et il finit avec un différentiel de moins 19. On sent qu'il y a encore un petit peu de rouille, mais les Sixers décrochent une victoire importante. Comme je le disais, bon, pour l'instant, ils sont 8e, mais ils sont encore clairement en course pour la 6e place, donc la 7e aussi. Ils ont le même bilan que Miami en termes de victoire, mais ils ont une défaite de plus.
Ouais. Et ce match, tu as raison de dire que c'était un peu fou, parce que c'est assez rare qu'il y ait autant que ça marche que par des runs. C'est vraiment il y a du 15-3, 21-4. Enfin, ça n'a pas été serré. J'ai l'impression que c'est jamais serré. Philadelphie a pris deux fois des grosses avances, à Miami est revenu, Miami reprend le dessus dans le quatrième, et je ne sais pas comment ça allait se terminer. Et Tyrese Maxey fait un gros match, et les Sixers sont plutôt dans une bonne période. C'est la troisième victoire de suite, et, Et il y a un scénario où ils doublent, grâce à, entre autres au retour d'Embiid, ils peuvent doubler Miami et Indiana et décrocher une qualif directe en playoff qui serait un peu inespérée compte tenu des circonstances qu'ils ont connues sur la deuxième partie de saison.
Ouais, inespéré, c'est vrai. Justifié, par contre, tu vois. Et en plus, oui, ça donnerait cette fameuse sixième place qui est le premier tour contre Cleveland. Mmh. Sur ce match, j'ai l'impression quand même que les stars de Philly ont dominé celles de Miami. Hein. Du côté de Bam Adebayo, c'était que seulement 14 points. Butler, 20 points. Le star power des Sixers a fait la différence et sur ce match. Et ça peut effectivement, c'est ça la suite de mon raisonnement, c'est que ça peut faire la différence aussi sur cette fin de saison et après, évidemment, potentiellement sur une série de playoffs, quoi.
Ouais, mais c'est, ouais, t'as raison, c'est aussi un avant-goût peut-être d'un play-in. Si Indiana tient le choc à la sixième place, ce qui est pas garanti, il faudrait que je regarde leur calendrier, mais le Philadelphie-Miami au play-in, on parle beaucoup à l'ouest d'un Warriors-Lakers, mais Sixers-Heat pour un match
de play-in, quoi. C'est une série de play-offs normalement sur le papier. Ça.
Ouais, avec le retour d'Embiid, je dis oui tout de suite.
Autre match, pardon, c'était l'affiche de la soirée entre les Clippers et les Nuggets, et belle victoire des Clippers, 102 à 100 contre Denver. Il manquait un joueur 4 de chaque côté, hein. Kawhi Leonard n'a pas joué, Jamal Murray n'a pas joué. Les Clippers ont quand même réussi à s'accrocher pour aller chercher cette victoire, ils ont résisté sur la fin. C'est les deux équipes ont compté plus de 10 points d'avance dans le match. Chacun a eu ses périodes, mais c'est donc Los Angeles qui finit par l'emporter. Jokic a manqué le buzzer beater à la fin pour la gagne, mais Jokic fait 36 points, 17 rebonds, 10 passes, donc triple-double. Il était obligé de prendre 24 tirs. De l'autre côté, il y a 28 points de Paul George, 20 points de James Harden et un bon match d'Ivica Zubac, 14 points, 15 rebonds.
Ouais, c'est Jokic qui les ramène à 2 points à la fin. C'est lui, en allant sur la ligne, provoquant des fautes, c'est lui qui redonne un peu de suspense sur la fin. La victoire des Clippers, elle est importante parce que on en parlera après, mais Dallas a gagné. Et du coup, ils conservent les deux victoires d'avance, les Clippers, grâce à ce succès. Et bah, c'est important parce que ça t'évite. T'as une petite marge de manœuvre avant la fin sur le sprint final et ils sont plutôt bien partis pour rester là où ils en sont. Et c'était un peu. Moi, j'ai bien aimé le match de Paul George. J'ai bien aimé Westbrook encore une fois. C'est la saison
où je dis le plus de. Ça fait la différence.
Ouais. C'est la saison presque où je dis le plus de bien de Westbrook, paradoxalement. Je le trouve toujours irréprochable, vraiment en sortie de banc. Il met toujours cette énergie. Et depuis qu'il est revenu, ils sont un peu moins. Le jeu est un peu moins statique, un peu moins lent aussi, parfois. Et alors, il met que 12 points en sortie de banc, mais il y a l'activité avec les rebonds, les passes. Dans un match où tu as James Harden qui est assez maladroit, Kawhi n'est pas là. Donc Paul George aussi, 28 points. C'est une victoire importante pour les Clippers. Et les Nuggets qui eux, de leur côté, laissent les Wolves prendre un peu plus d'avance en tête. Enfin, en tout cas, ils ont l'opportunité de prendre de l'avance s'ils gagnent leur prochain match contre Phoenix.
Ouais, le Westbrook, c'est à l'image du banc, quoi. 34 points du banc pour Los Angeles, 9 pour Denver. C'était un match dans un contexte de play-off et on voit un peu les limites du banc de Denver, chose tu vois, qu'on a déjà soulignée, mais dans un match où les rotations se resserrent et où ça se joue sur des marges, il n'y a pas un mec qui sort du lot. Quoi. Christian Brown un peu, il a manqué d'adresse, mais il a joué longtemps, il a même été sur le terrain dans le Money Time, etc. Mais il y a, à la place de Reggie Jackson, tu vois, Reggie Jackson ne jouait plus dans les dernières minutes, c'était Christian Brown. Mais voilà, il y a pas un, tu vois, tu sens de la jeunesse, tu sens des limites, il y a des mecs que tu peux pas faire jouer, les Njaji, tu vois, ils jouent plus. Piquet, Gillespie, les deux c'est des rookies, si tu dis pas de bêtises, ou Jaden Piquet, il est faux mort. Les deux c'est des rookies, mais en fait ils jouent pas, tu vois, Peyton Watson,
même Strother il joue plus, là,
il va pas jouer. C'est le truc que je disais depuis le début, en playoff, il va pas jouer en fait, ce mec là. Et même Peyton Watson, tu vois, et là, il y a moins d'impact. Et mine de rien, Jokic entre Murray, toujours pas revenu. On en est sur 7 ou 8 matchs d'absence de suite, là, sur Jamal Murray.
Ouais.
Comme j'ai dit, il y a deux blessures. Encore une fois, c'est pas anodin. Et Jokic, il est obligé de vachement s'employer. Il prend 24 tirs. Alors, il est dans la force de l'âge, mais tu vois, à la fin, il est obligé de jouer tous les ballons, quoi.
Ouais.
Et du coup, bon, les Nuggets. Les Nuggets.
C'est l'inquiétude. Non, mais t'as raison. De toute façon, c'est l'inquiétude de départ sur le banc, la jeunesse du banc, le manque de les Nuggets. Ils vont s'appuyer sur leurs forces. Ils vont espérer être au complet. Et Murray, je suis pas encore inquiet parce que j'ai l'impression qu'ils veulent s'assurer qu'ils se refassent pas mal avant. Enfin, ils sont assurés d'être top 4. Ils auront l'avantage du terrain au premier tour. c'est mieux de l'avoir jusqu'au bout, hein, c'est clair. Mais je pense qu'ils préfèrent avoir Murray à peu près à 100% en playoff. Mais il y a ce risque-là. C'est-à-dire que s'il y en a un qui c'est un Michael Porter Jr. Ou un Jamal Murray qui n'est pas là pendant les playoffs, ça pose un gros problème, c'est sûr. Et même pourtant, j'aime bien les joueurs qu'ils ont sur le banc, hein, même Watson et tout, je les aime bien, mais on verra s'ils sont prêts à donner quelques minutes de qualité à un moment.
Oui, ils donneront, je pense. Watson comme Brown, je pense que les deux auront des bons moments, mais c'est... En fait, tu vois, par exemple, je peux pas comparer l'apport que va avoir Watson ou Brown avec ce que Peyton Pritchard pourra faire à Boston, tu vois. Ouais. Peyton Pritchard, je sais que sur l'ensemble des séries, peut-être qu'il aura un ou deux matchs sans, mais tu pourras toujours compter sur lui, tu vois, grosso modo, ou 81% du temps. Watson Brown, j'ai plus l'impression que ce sera des passages. Il y aura des bons passages. Peut-être s'il y en a plusieurs, s'il y a plein de bons passages, ça serait effectivement un vrai plus pour Denver. Mais ouais, le banc est une question. Après, bon, de toute façon, pour les Nuggets, il suffit qu'il y ait le 5 majeur au complet. Et vraiment en bonne santé, je dirais. Pas diminué, tu vois. Mais les Nuggets ont encore un peu de marge.
Ça m'a fait rire en traînant sur Twitter ce matin. Je voyais, c'est pour dire la conséquence et la suite de l'histoire des paris sportifs, c'est que autour de Michael Porter Jr., enfin pas lui, hein, mais de son frère, les mecs maintenant ils scrutent les stats de Michael Porter Jr. et il s'est arrêté. Tu sais, t'as plein de mecs qui mettent au moins 15 points ou plus de 15 points, au moins 10 rebonds. Il s'est arrêté à 14 points, 9 rebonds. Il y a des mecs qui pétaient des câbles dans les commentaires. Et voilà, on voit l'arnaque et tout. Enfin, alors que bon, le gars, c'est-à-dire qu'il sort. En plus, sur la fin, il sort à un moment parce que là, sur leur dernière possession défensive, donc avant leur dernière possession à eux, il sort Michael Porter Jr. pour faire entrer Watson, qui selon lui défendait peut-être mieux. Et les mecs, ils pétaient des câbles pour voilà les dérives des paris.
Malone s'était fait virer, hein. S'était fait expulser de la rencontre.
Ouais, avec des mots doux pour l'arbitrage. Ouais. Et Harden, tu vois Harden qui lui indique la sortie comme ça, c'est Harden qui a fait l'arbitre aussi.
Et qui a 6 sur 23 au tir, hein, Harden. Et il met 20 points, mais 6 sur 23. Bon, après, il a mis ses 20 points, mais il est encore dans une période délicate en termes d'adresse, là, Harden.
Ouais.
Dallas a battu Atlanta 109-95. Les Mavs qui sont de plus en plus proches de se qualifier directement pour les playoffs. De toute façon, tu l'as dit, ils pouvaient même encore mettre la pression sur la quatrième place. 26 points de Kyrie Irving, 25 points, 12 rebonds, 8 passes de Luka Doncic qui a shooté à 8 sur 25 lui aussi. Mais bon, voilà.
Il n'a pas mis un seul panier dans le premier quart-temps. Le début de match, alors quitte d'expliquer après que c'était parce qu'ils étaient en sortie de road trip et qu'ils étaient fatigués, mais 0 point pour Luka dans le premier quart-temps et après ils sont entrés dans le match et ils ont pris le dessus sur les Hawks assez tranquillement. Alors, tu parlais de Kyrie, PJ Washington a été bon aussi.
Oui. Luka, par contre, il n'a pas mis beaucoup de paniers, mais il a quand même trouvé le temps d'en mettre une main à 3 points. Quoi.
Ouais, tu l'as vu, c'est Théo qui disait le mec fait des horses en plein match tous les soirs, il fait tenter des nouveaux trucs. Il est tellement insolent.
Il y a quelques quotes de Kyrie après le match que j'ai vu passer brièvement. Il explique que dans son téléphone, il a encore le même, enfin, il a l'image enregistrée de la note qu'ESPN, je crois que c'est ESPN, a mis pour son trade. Donc c'était un D pour les Mavericks, tu vois, genre vraiment mauvais pari. Et voilà, il explique qu'il le regarde pour se motiver et que ça lui donne de la motivation en plus. Et effectivement, Dallas est 5e, 46 victoires, 30 défaites. Les Mavs sont plutôt bien partis pour se qualifier directement pour les playoffs sans passer par le play-in. Il restait un match cette nuit, c'était celui entre New York et Sacramento. Bah justement, on reste sur le terme du play-in. Sacramento qui fait une mauvaise opération en s'inclinant contre les Knicks. Donc défaite 120-109, 35 points et 11 passes de Jalen Brunson, 31 points de Josh Hart, 9 rebonds, 8 passes. Josh Hart qui n'est pas passé loin d'un nouveau triple-double. Et donc victoire des Knicks. Le 5 des Knicks, c'est incroyable parce que Brunson 38 minutes, McBride 43 minutes. Josh Hart, 43 minutes. DiVincenzo, 39 minutes. Les trades, alors Mitchell Robinson a rejoué. Les trades de Alec Burks et Bojan Bogdanovic, c'est pour de la figuration. Les mecs ne vont pas jouer. En playoff, là, alors on verra si Anunoby revient. Mais si Anunoby ne revient pas avec Randall Holt, je peux t'assurer déjà.
Il va revenir.
Hart et Brunson, ils ne vont pas sortir.
58 minutes par match. Mais Anunobi, je regardais ce matin justement parce qu'on en parlait, on se disait, mais est-ce que tiens, s'il n'y a pas Randle, s'il n'y a pas Anunobi. Mais en fait, Thibodeau, hier, cette nuit, dans la foulée du match, a dit qu'il avait été autorisé à reprendre l'entraînement avec contact en 5-5. Alors, ils vont être prudents parce qu'ils sont capables, on le voit bien là, ils sont capables de gagner des matchs même sans les trois quarts de l'équipe, presque, j'exagère, mais c'est pour dire à quel point c'est quand même une équipe qui a du cœur et qui est portée par Brunson et les joueurs autour, Hart. Ils sont capables de gagner des matchs, ils sont même capables, je pense, de gagner une série de playoffs sans Randle, ça c'est sûr, parce qu'il ne sera pas là. Mais même diminués, ils sont capables de tout, je pense, sur une série. C'est vraiment pas l'équipe qui va prendre une rouste, quel que soit l'adversaire. Donc ce sera mieux avec Anunobi, pardon. Et je pense qu'il sera revenu à temps. Il n'y a pas de raison. Si là, il autorise à reprendre le contact, les playoffs ne démarrent pas tout de suite. Et
alors, ça fait une 10.
Ouais, voilà. Mais bon, vu le profil du joueur, quand même, je pense que c'est le mec qui va serrer les dents et qui va jouer. J'imagine pas. S'il autorise à reprendre le contact, je l'imagine pas passer son tour. Est-ce qu'il va rejouer en saison régulière? C'est autre chose. Il reste entre 5 et 7 matchs pour les équipes selon le calendrier. Mais je pense qu'on le verra en playoff et que ça rend les Knicks d'autant plus chiant à jouer pour n'importe quelle équipe au premier tour.
On a fait le tour des matchs NBA. Je ne sais pas si tu as quelque chose en particulier que tu veux rajouter, quelque chose que tu aurais vu ou que tu aurais...
J'ai bien aimé la séquence de... tu parlais de ça ce matin. C'était un extrait du nouvel épisode de Redick et LeBron. Où Redick, il arrive à faire admettre à LeBron qu'il regarde lui-même ses highlights sur YouTube. Au début, on connaît LeBron. Hein, souvent, on rigole, on se dit qu'il aime bien en rajouter, raconter un peu... faire un peu le mytho gentiment, hein, pas du tout. Je dis pas que c'est un menteur du tout, mais c'est. Et du coup, il commence à dire ouais, je tombe comme ça sur mes vidéos, sur des vidéos de moi sur YouTube. Et Redick qui lui dit non, entre nous, mec, dis que tu. On a tous été sur Google pour taper 27 points contre Charlotte après un mauvais match pour se remettre en confiance. Et là, LeBron, il admet, il dit ouais, c'est vrai que quand tu es dans une mauvaise passe au niveau de l'adresse, tu vas sur YouTube et tu tapes ton nom pour te rappeler comment tu fais les choses. Et donc, c'est marrant d'imaginer LeBron. Normalement, tu te dis, ces mecs-là, ils ont joué des milliers de matchs. C'est pas parce qu'il va rater un match que derrière, il va perdre confiance ou quoi. Mais t'imagines LeBron chez lui avec son verre de vin. Bon, qu'est-ce que je vais faire à YouTube? LeBron James 2011-2012. Ça m'a amusé. J'ai pas encore vu. Je sais même pas si l'épisode entier est sorti d'ailleurs. Si, il est sorti.
Il est sorti, oui.
Il est sorti, celui-là, je ne l'ai pas encore. Mais voilà, des interactions comme ça, j'aime bien. D'ailleurs, les discussions se. Non pas que c'était pas détendu, hein, ils sont en train de siroter du vin et de discuter tactique et machin, mais ça va être de plus en plus intéressant, je pense. La connexion entre les deux est grandissante aussi.
Ouais, et puis ça commence à ça dépasse l'aspect tactique là. Il y a de plus en plus, on a quand même plein d'insights de LeBron sur sa propre carrière. Alors il y a déjà les gens qui disent qu'il fait du révisionnisme, notamment sur le Heat, tu vois, où il explique que c'est pas une super team. Il y a des phrases sur la finale de 2011, tu vois. Alors il explique, il dit, hein, il dit j'ai été mauvais, hein, il le dit. Hein, mais après il dit aussi ouais, mais on n'avait pas encore les bonnes pièces, tu vois. Il y a pas mal de trucs, tu vois, où les gens disent non mais on était là mon gars. Donc LeBron évidemment. C'est son podcast, il a eu une occasion, mais je trouve ça très intéressant d'avoir sa vision des choses sur sa propre carrière, sur plein de trucs. Et au final, c'est marrant parce que d'un côté, et ça me laisse encore une fois penser que peut-être la retraite approche, c'est quelque part, et des fois, il parle comme s'il était à la retraite, tu vois. La manière dont il parle d'autres équipes, normalement, tu t'évites un peu de le faire quand tu es encore joueur. Lui, tu vois, quand c'est un truc que j'y pense, parce que hier, il y a un épisode où il parle, tu sais, de la manière de défendre sur Lucas.
C'est sur le deuxième.
Ouais, sur le deuxième, ouais. Et tu sais, il explique que voilà, les Hawks, enfin, que tu peux pas défendre sur Lucas, mais tu sais, la manière dont il en parle, normalement, déjà rien que ça, tu sais, t'en parles, t'as l'impression que le mec est détaché de la ligue, son équipe joue encore. Et tu sais, même, il parle de la stratégie défensive, sachant que sa propre équipe est amenée à jouer Luka, tu vois. Ouais. Et ils m'ont fait marrer parce que il y a JJ Redick qui dit ouais, les Hawks, c'est l'équipe qui blitz le plus sur pick and roll, mais il y a un match où ils n'ont pas blitzé, où ils n'ont pas pris à deux du coup le porteur de balle sur pick and roll. C'est contre Luka Doncic, le mec qui subit le plus de prises à deux sur pick and roll, et c'est le match où il en met sur son 13. Mais oui, la manière de parler, des fois, tu te dis, mais hey mec, t'es encore dans la ligue, tu sais que tu vas affronter ces gars-là. Tu vois, parce qu'il est là, tu sais, il dit même ça sur les Hawks, il dit, ouais, mais je sais même pas pourquoi. Non, pas sur les Hawks, pardon, sur toutes les autres équipes qui font prise à deux sur Luka.
Il comprend pas pourquoi, ouais.
ce que son propre coach est amené à faire aussi, hein, ce que son propre coach a déjà fait. Alors, je ne comprends pas pourquoi les équipes elles font ça. Tu vois, il y a un truc voilà, qui fait presque pré-retraite.
Mais après, c'est quelque chose que faisait par exemple Draymond Green avant qu'il ait son podcast. Tu sais, sur la saison de transition des Warriors, là, il était. Et puis, il analysait tous les trucs. Il parlait de Jokic notamment. Il le mettait un peu au challenge sur des trucs. Il disait, moi, je ferais comme ça, ça, ça. Donc, c'est aussi intéressant parfois en situation de voir ça. Alors, ça l'a fait avec d'autres joueurs aussi. Juste, bah, y a Redick qui est là qui faisait ça aussi en pleine carrière. C'était des implications moindres parce que c'était pas un joueur phare comme LeBron ou Draymond. Voilà. Mmh. Bon, puis Redick, il parle de il va pas parler de trucs défensifs particulièrement, mais c'est super intéressant. Moi, on n'est pas toujours. Moi, je pense vraiment que LeBron, il va pousser jusqu'au bout du bout. Et toi, je sais que on a déjà eu cette discussion, mais c'est tout à fait possible. Hein. Dans tous les cas, c'est clair que c'est pas ce qu'il est plus en fin de carrière qui se permet de s'ouvrir un peu, enfin d'ouvrir un peu son cerveau aux gens. Je pense qu'elle lui tient à cœur aussi que les gens se rendent bien compte que c'est pas. Parce que quand tu parles à des gens, le grand public, je dis pas ça de manière péjorative, mais je sais pas, tu prends mon père, des gens de mon entourage, ils voient juste LeBron, ils suivent pas du tout les à côté. Ils voient en LeBron un phénomène athlétique depuis 20 ans, ils se disent juste, c'est surtout un super athlète. Tu vois. À aucun moment, ils vont se dire, c'est un cerveau. C'est un mec ultra intelligent qui est capable, qui a une mémoire photographique comme personne avant lui quasiment. Donc c'est bien. Je pense que LeBron, ça lui tient aussi à cœur que les gens se rendent compte à quel point il est solide. Et c'est un euphémisme au niveau tactique, connaissance du jeu. Voilà. Je pense que ça lui tient à cœur. C'est aussi pour ça qu'il a accepté ça. Peut-être parce qu'il est plus proche de la fin, évidemment, que du début.
Non, mais je pense que t'as raison. Tu vois juste. Hein, ça rejoint ce que tu vois, je pense aussi. C'est cool d'avoir accès à son cerveau, en fait. C'est la formule, j'aime beaucoup. Ouvrir son cerveau, c'est un peu ça, parce que au-delà des réponses sur certaines interviews où il va t'expliquer des choses, là c'est vraiment en roue libre, en détente avec DJ Redick, et ça rend le truc vraiment intéressant, c'est clair. Ouais. Sinon, t'as lancé sur Jokic, je me permets une dernière petite truc du coup avant qu'on. Je sais pas si t'as vu la phrase d'Arenas.
Ah oui, oh là, quelle catastrophe, j'avais oublié ça.
Au début, je m'étais dit qu'on n'en parlerait pas, parce que je voulais pas qu'on. Je voulais même pas. Tu sais, je me dis, mais en fait, il faut le traiter comme Stephen A. Smith, et pourquoi, du coup.
C'est pire,
même relayer ce qu'il dit.
C'est 10 fois pire.
Du coup, Arenas a dit que Jokic était le pire MVP, pardon, statistiquement, depuis combien de temps?
Les 40 dernières années.
Les 40 dernières années. Voilà, ça c'est la phrase d'Arenas. Je sais pas quel est son.
Mais parce que Stephen A. Smith, on compare à Stephen A. Smith, le truc c'est que Stephen A. Smith, il a une opinion et il la théâtralise, donc c'est un peu ridicule, on en rigole. Mais derrière, parfois les opinions elles sont pas scandaleuses, on est peut-être pas d'accord, mais là, je veux dire, Jokic, pire MVP des 40 dernières années.
Mais surtout, en plus, tu pars, tu sais, il est sur le terme statistique, donc tu pars sur un truc où c'est démontrable par des chiffres. Bah oui. Ouais, t'as perdu d'avance parce que les chiffres vont te montrer le contraire en fait. Donc je capte pas, est-ce que c'est juste pour rester dans le coup, je comprends pas, tu vois.
Il est quand même fondamentalement anti-européen, Arenas. Hein. C'est-à-dire que la dernière fois on en discutait quand il disait que c'était de la faute des Européens si la NBA avait adouci les règles défensives et tout. Bon, déjà on avait, je pense qu'on a, enfin et pas que nous, hein, mais c'est facilement démontable, hein, y a pas de problème. Et là, tu vois, gratuitement, ah tiens, Jokic, hop.
J'aimerais bien que Kevin Serafin le croise.
Ah bah ouais, évidemment. Mais c'est fou.
Pour avoir une discussion sympathique.
Tous les jours, il en sort une nouvelle, quoi. C'est pour exister, pour faire parler de son émission, machin, mais.
Ça me fait penser que c'était dans son podcast que Kenyon Martin avait annoncé sans aucun. Je sais pas comment dire. Vraiment dans le plus grand des calmes. Que Luka Doncic n'était pas le meilleur joueur de son équipe. Et il restait de marbre, tu vois, quand les autres. Je ne sais pas si tu te souviens de ce passage, mais voilà, Kenyon Martin était là. Mais non, mais demander à n'importe qui en 1 contre 1, c'est pas Luka Doncic.
J'aime bien le demander à n'importe qui, c'est des mecs qui restent entre eux. Ça fait 20 ans qu'ils restent entre eux, ils sont 5, 10, et tous leurs avis ont valeur de vérité générale absolue.
C'est les mêmes mecs qui, derrière, te disent tu ne peux pas parler, toi, tu n'as pas été pro, en fait. Tu sais, genre, tu n'as pas été pro, tu ne sais pas de quoi tu parles.
Mais Kenyon Martin, je dis ça, j'aimais bien Kenyon Martin comme joueur, hein, j'aimais bien les Nets de cette époque-là, mais c'est le mec qui avait quand même, il avait embrouillé Jeremy Lin parce qu'il s'était fait des dreads, il avait dit c'est de l'appropriation culturelle, c'est n'importe quoi et tout. Et Lin lui avait répondu, mais toi, tes tatouages en chinois, c'est pas de l'appropriation culturelle. Enfin, c'est les mecs qui réfléchissent pas avant, ils réfléchissent pas avant de parler, quoi. C'était des très très Arenas aussi, c'était même le joueur, si tu sépares l'homme de l'artiste, c'était des joueurs ultra divertis. Mais bien sûr, mais c'était et Kenyon Martin ultra spectaculaire à l'époque. Les gens se souviennent pas, mais c'était un first pick. Mais en dehors, les analyses, comme on disait la dernière fois, il y en a qui vieillissent bien, presque de manière étonnante. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Kevin Garnett pendant sa carrière. Je trouve qu'il vieillit bien sur le plan de la manière dont il parle de la nouvelle génération, de l'ancienne. Donc, il a en même temps le côté nostalgique et le côté réalisme sur ce qui se fait aujourd'hui. Puis, tu as des mecs comme Paul Pierce et un degré au-dessus, Gilbert Arenas, évidemment.
Bon, bon, allez, on va se laisser sur ces belles paroles. On se retrouve demain pour le 6e CQFR de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Il y aura aussi les rendez-vous du week-end, le Hoop Culture, le Moob Deep. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Bonne journée.